et soit ton tour, mes pères, en tour.
Et de nos discharges,
je vous ai dit. Oremus, le Saint-Esprit, tous ceux qui s'assurent de Christi. Dans le Seigneur, dans l'Esprit, tu rectas sa père, et de nous, Saint-Père, consolation et gardez-les. Père, que son dominum nos Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nomine Patris.
Le supérieur général m'a demandé de vous adresser la parole au moins une fois pendant au cours de cette retraite. Je ne sais pas si je vais vous apprendre grand-chose parce que il n'y a rien de bien nouveau pour l'instant, sauf la rencontre avec le cardinal Ratzinger, mais qui n'amène pas grand-chose de nouveau non plus. Mais enfin, je voudrais d'abord vous féliciter d'être venu à la retraite et vous encourager vivement à tout faire pour maintenir votre ferveur, votre désir de vous sanctifier, pour sanctifier les autres. Déjà, un certain nombre d'entre vous ont passé 10 ans de sacerdoce. Monsieur l'abbé Olanier en aura 16 cette année. Et pas rien, ça devient un vieux prêtre. Et un bon nombre cette année m'ont fêté leurs 10 années de sacerdoce. C'est une année où il y avait un certain nombre d'ordinations, et grâce à Dieu, ils sont encore de ce monde. Alors, donc l'expérience. Et là, maintenant, on ne peut plus dire que la fraternité n'est formée que de jeunes prêtres. Ils sont jeunes, n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas. C'est en train de disparaître, cette étape-là. Mais il y a un danger. Il y a le démon de midi. Et oui, il y a le démon de midi qui vous guette et qui vous attend. Vous savez, c'est régulier, je vous ai déjà dit, bien souvent. L'expérience comme supérieur général des Pères du Saint-Esprit et comme évêque de Dakar m'a appris que les difficultés graves, quelquefois, que rencontrent les prêtres, après 10, 15, 20 années de ministère, sont assez fréquentes. Pas toujours, grâce à Dieu, heureusement, mais enfin, il semble qu'après, vous voyez, après un certain nombre d'années de ministère, évidemment, on a perdu un petit peu certaines illusions. On était arrivé au premier poste où nous avions été nommés, plein d'enthousiasme, et on s'était dit, certainement, après quelques années, je vais avoir converti la plupart de ceux qui sont encore loin de notre Seigneur, ou enfin donner plus de ferveur à tous les chrétiens qui nous entourent. Et puis, ma foi, les années passent et on voit que c'est pas si facile que ça. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à nous rendre compte de ça. Il suffit de lire les Actes des Apôtres. Hein? Si nous nous faisons des illusions, nous avons. Relisons les Actes des Apôtres pour voir que quand Saint Paul passait dans les différents endroits où il exerçait sa mission, quelques-uns ont cru à sa parole, les autres. Petit groupe, quelquefois on nomme 3, 4 ou 5 personnes qui ont quelque chose. C'est comme ça. Et alors, il y en a quelquefois un certain nombre qui, avec le temps, perdent alors le zèle, perdent le désir vraiment de j'ai beau me décarcasser, je cherche tous les moyens pour arriver à essayer d'ouvrir les yeux à nos gens, de les sanctifier, de faire quelque chose, et pour un résultat apparemment vraiment minime, quoi. Alors, c'est quand même dur de penser qu'on s'est fait prêtre et apôtre pour peu de choses, pour peu d'âmes, pour peu... Ça, c'est souvent jugé humainement, mais alors, ici, on ne juge pas tout ça surnaturellement, et puis que on ne vit pas, justement, avec notre Seigneur, avec les apôtres, comme l'ont fait les apôtres, et donc, ce n'est pas le succès que nous cherchons, mais c'est notre dévouement à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour lui que nous travaillons. Si les âmes ne se convertissent pas, bien... évidemment, on doit toujours s'examiner, voir si on ne pourra pas mieux faire, si ce n'est pas de notre faute, si on ne peut pas faire un peu plus, un peu mieux, plus surnaturellement, plus de prières, peut-être, d'union à notre Seigneur. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Même notre Seigneur n'a pas converti toutes les personnes auxquelles il est... qu'il a rencontré, n'est-ce pas? Alors, il y a, encore une fois, vers 15-20 ans, il y a souvent un moment d'hésitation. Alors, il y en a qui ont envie de tout laisser, tout abandonner. Et alors, si des occasions se présentent, s'ils ne sont pas assez vigilants, s'ils ont déjà... manquer de régularité, manquer de ferveur, manquer les retraites, manquer les récollections, manquer ça, tout doucement. Les moyens de tenir diminuent, la force baisse, et puis, ma foi, si les occasions se présentent, ils sont vulnérables. Et le démon connaît très bien ça, bien sûr. Et les instruments du démon le connaissent bien aussi. En général, on peut dire que nous sommes tentés, et d'une manière précise et d'une manière concrète, que ceux qui veulent bien se laisser tenter, que ceux qui se sont préparés à cela, malheureusement, qui n'ont pas fait d'efforts suffisants. Alors, le démon le sait, et ces personnes vendues au diable pour perdre les prêtres le savent bien aussi. Elles le voient bien. Celui-là, il est faible. On va peut-être pouvoir l'avoir. Celui-ci, on pourra peut-être l'avoir. Croyez qu'il y a des organisations internationales pour perdre les âmes des prêtres. Des organisations internationales, maçonniques bien sûr, et qui sévissent dans les endroits où il y a le plus de prêtres, tout ça, pour essayer de perdre les prêtres. Alors, ceux qui se tiennent sur leur garde, ceux qui sont vigilants, ceux qui prient, ces personnes dévoyées ou qui voudraient faire perdre l'âme d'un prêtre, ou bien le sentent très bien et n'iront pas chez lui. Mais s'il y en a un qu'elle sente faible et vulnérable, alors, voilà. Et puis, il y en a qui partent, qui abandonnent. J'en ai connu pas mal, hélas. C'est jeunes prêtres, des prêtres qui étaient très bien, je vous assure, j'ai dans la mémoire de ces prêtres, je vois directeur des œuvres à Dakar, etc., s'occupant des enfants, admirablement, extraordinaire, comme apostolat, etc. Parti. Ah, c'est désastreux. Et alors, à côté de cela, bien, il y a d'autres qui sont tentés alors par la vie contemplative. C'est mieux. Ils disent, oh, puisqu'on n'arrive pas par les moyens, je n'arrive pas, mes résultats sont vraiment, vraiment médiocres. Oh, bah, ma foi, je pense qu'il vaudrait mieux que je m'enferme dans un couvent, que je fasse pénitence, que je prie. J'aurai plus de succès. Les grâces que j'obtiendrai du bon Dieu seront plus efficaces que celles que je peux obtenir ici. Eh bien, c'est comme ça qu'à l'abbaye d'Aiguebelle, on pourrait faire un inventaire des spiritains qui sont entrés à l'abbaye d'Aiguebelle, tout près de Montélimar, chez les frappistes, là. Eh bien, je suis sûr qu'il y a bien une dizaine de spiritains qui sont là, qui se sanctifient, j'espère, qui prient pour les autres. Mais alors, il y en a quelques-uns qui sont rentrés, ils sont pas restés 3 semaines. Ils croyaient la vie contemplative, c'est le paradis, on va être là-bas, on va être au paradis, ça n'a plus de soucis. Ça n'a pas duré longtemps. Ils sont revenus à leur mission. Mais c'est un danger, il faut être prévenu là-dessus. Oh, c'est pas le cas de tous, bien sûr, heureusement, grâce à Dieu. Mais il y a certainement un danger réel, et c'est un peu compréhensible, évidemment. Il faut surnaturaliser son apostolat et comprendre que le bon Dieu ne demande pas le succès. Non pas combien avez-vous converti d'âme. Il nous demande ce qu'on a fait, est-ce que notre travail, est-ce que nous avons travaillé, est-ce que nous avons prié, est-ce que nous sommes sacrifiés, est-ce que nous avons fait vraiment tout notre possible pour la sanctification, c'est tout. C'est sur ça que nous serons jugés. C'est pas si nous avons conquis tant et tant et tant d'âmes, tant mieux si nous avons pu le faire. Mais le succès dépend de notre Seigneur. Pas nous qui convertissons les âmes, pas se faire d'illusions, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut rien changer. Si vous voyez les difficultés dans votre apostolat, ne changez surtout rien, surtout pas de découragement, surtout pas de diminution de prière, de pauvreté, d'humilité, de sacrifice. Il ne faut pas changer. Alors, maintenant, surtout, vous voyez bien que la fraternité est un témoignage. Est un témoignage, et tous ceux qui gardent la tradition sont un témoignage. Témoignage de l'Église devant ce monde qui se perd. Alors, il ne faut pas que ce témoignage diminue, il ne faut pas que ce témoignage disparaisse. Pour le moment, à part, hélas, quelques petites exceptions que vous connaissez vous-même, sur les 350 prêtres que j'ai ordonnés, même ceux qui nous ont quittés, en général, sont restés bons prêtres, n'ont pas abandonné leur sacerdoce. Bon, malheureusement, ils nous ont quittés, mais ils sont restés bons prêtres. Il n'y a que quelques rares exceptions qui, malheureusement, n'ont pas tenu, mais sont rares. Et alors nous devons qu'il faut que cette armée, cette armée que représentent les prêtres de la tradition, demeure très fidèle. Je pense que notre Seigneur compte sur nous, n'est-ce pas? Compte sur ses prêtres pour garder la vertu de l'Église, pour garder montrer ce qu'est l'Église encore dans le monde. Que les vertus sacerdotales enfin se manifestent encore à travers vous. Hier, je pense que les missionnaires vous ont parlé. Eh bien, ils ont pu vous dire aussi que dans les missions, là où ils sont, les constatations sont les mêmes que partout ailleurs. Alors, tout s'écroule. Le clergé n'a plus foi dans sa mission. La liturgie, n'en parlons pas, c'est la ruine de la liturgie. Les vocations s'amenuisent, il n'y en a plus, ou elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bien formées. Par contre, alors, parmi les laïcs, et peut-être quelques prêtres, quelques rares prêtres, mais enfin, parmi les laïcs surtout, on constate alors que le fait de revenir avec la tradition enthousiasme les laïcs qui ont gardé, ceux qui ont gardé le souvenir de notre foi, qui ont gardé la foi, qui ont gardé... Enfin, on retrouve l'Église, ils retrouvent l'Église, enfin. C'est une délivrance pour eux, c'est une joie incomparable. Et si on pouvait être nombreux, on s'aperçoit bien, si on pouvait être, je sais pas moi, envoyer des centaines de prêtres aux Indes, et puis des centaines de prêtres un peu partout dans l'Afrique, et partout, eh bien, on aurait un renouveau de tous ces laïcs, n'attendent que ça, n'est-ce pas? Le danger, c'est qu'ils finissent par perdre complètement la foi et tomber dans l'immoralité, c'est épouvantable. Mais les liturgies sont encore pires dans ces pays-là, sous prétexte d'acculturation, comme on dit maintenant, n'est-ce pas? Alors, Rome a encouragé à prendre des coutumes du pays, des gestes du pays, des danses du pays, et tout ça, pour faire entrer tout ça dans la liturgie. C'est devenu une... vraiment... on peut dire un sacrilège, vraiment un sacrilège. C'est du banditisme, c'est vraiment... c'est faire de ces cérémonies religieuses des choses abominables. Alors les fidèles supportent ça, ils suivent leurs prêtres, enfin ceux qui suivent, et puis le reste ou abandonne, ou alors si on vient, évidemment ils sont heureux de pouvoir revenir et retrouver véritablement la vraie Église. Alors ça montre que l'importance de notre apostolat, très 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 important. Alors il nous faut tenir, absolument tenir, envers et contre tout. Et alors maintenant j'en arrive enfin à ce qui nous intéresse sans doute davantage, mais moi je dis, Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, ils ont quitté l'Église, ils quittent l'Église. C'est sûr. Je l'ai résumé au cardinal Ratzinger, en quelques mots, n'est-ce pas? Parce que c'est difficile de résumer toute cette situation, mais je lui ai dit, éminence, vous voyez, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant, nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Alors je lui ai dit, pour nous, le Christ, c'est tout, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. C'est notre vie. L'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son épouse mystique. Le prêtre, c'est un autre Christ. Sa messe, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et le triomphe de Jésus-Christ par la croix. Notre séminaire, on y apprend à aimer le Christ et on est tout tendu vers le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre apostolat, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Et vous faites le contraire. Vous venez de me dire que la société ne doit pas être chrétienne, ne peut pas être chrétienne, que c'est contre sa nature. mais vouloir me prouver que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas et ne doit pas régner dans les sociétés. Et vous voulez prouver que la conscience humaine est libre vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut leur laisser la liberté et un espace social autonome, comme vous dites. C'est la déchristianisation. Eh bien, nous sommes pour la christianisation. Voilà. C'est tout. On ne peut pas s'entendre. Et c'est ça, je vous assure, c'est le résumé. C'est ça. On ne peut pas suivre ces gens-là. C'est l'apostasie. Ils ne croient plus à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit régner. Pourquoi ? Parce que ça va contre l'œcuménisme. Voilà. Ça va contre la liberté religieuse et contre l'œcuménisme. Liberté religieuse, œcuménisme, ça se touche. C'est la même chose. Voilà. Ah, parce que si la société est chrétienne, si notre Seigneur règne sur la société, alors ben, comment est-ce qu'on va pouvoir être bien avec les juifs, avec les protestants, avec les musulmans, avec les bouddhistes, etc. On ne peut plus faire d'œcuménisme, c'est pas possible. Si on met notre Seigneur Jésus-Christ avec sa croix qui doit régner sur la société, c'est fini. Non, c'est pas possible. Alors, cachons la croix de Jésus-Christ, cachons notre Seigneur Jésus-Christ, ne parlons plus de Seigneur Jésus-Christ dans la société. La société multireligieuse, pluraliste, etc. etc., etc. Ah non, c'est pas possible. Pas possible. Alors, la personnalité humaine, libre, c'est pas libre. On la déchristianise aussi, alors qu'elle doit croire. Elle n'est pas libre. Elle doit croire. Sinon, elle est condamnée. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Alors, si elle doit croire, elle est plus libre. Ah, liberté de la conscience, liberté de la conscience. Espace social autonome, voilà leur grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire, espace social? Alors, espace social autonome, pour tous les sentiments religieux et les idées religieuses que l'homme peut concevoir dans sa conscience. Demande un peu. Et évidemment, derrière ça, il y a la moralité qui suit. Il n'y a pas seulement les idées. Derrière les idées, évidemment, il y a l'immoralité qui vient avec tout ça. Alors, libre. Cet espace social autonome, pour... Alors, jusqu'où ça va, l'espace social autonome? Jusqu'à l'ordre public. Si ça ne dérange pas l'ordre public, alors, ils sont libres. La société n'a rien à y voir. C'est inconcevable. Inconcevable. Alors ça, il me l'a dit il y a le 14 juillet. Il a commencé par ça. Par me vouloir me prouver que l'État ne devait pas avoir de religion. Et que ça, c'est dans sa nature. Alors je lui dis, mais enfin, il y a 15 siècles d'Église qui s'inscrivent entre ce que vous dites, éminence, voyons, tout de même. Et le sacre des rois, qu'est-ce que faisait avec le sacre des rois et des princes? Sinon, les supplier, pas demander à Dieu de leur donner la foi catholique, de leur donner la force de garder la foi catholique dans leur pays, d'étendre les mœurs chrétiennes, les vertus chrétiennes, etc. Enfin, de défendre l'Église contre ses ennemis, etc. C'est tout le sacre du roi. On lui donnait l'épée, on lui donnait... Pourquoi? Pour défendre contre les ennemis de la foi. Ah, mais ça, c'était une période exceptionnelle et anormale. Ah, 15 siècles. Ah, c'est pas mal. C'est anormal. Nous nous rattachons à l'Évangile. Rattacher à l'Évangile, je demande un peu. C'est facile à dire. C'est absolument faux. Comme si le Saint Paul n'avait pas dit « Oportet illum regnare, il faut qu'il règne ». Et tout est pour le règne de notre Seigneur dans l'Évangile, voyons. Enfin, quand même, alors il n'y a plus d'Évangile. Alors, c'est incroyable. Incroyable. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse se fier à des gens comme ça? C'est plus possible. Pas possible. Alors, évidemment, ils ont été un peu effrayés par le serment du 29 juin. Il m'en a parlé, il l'a lu, en ce cas, il l'a écouté, en tout cas, dans une cassette, je suppose. Et alors il m'a dit, mais enfin, comment se fait-il que vous trouviez que la réponse aux objections que vous avez envoyées pour la liberté religieuse Notre réponse est plus grave qu'Assis. Vous dites que c'est plus dangereux qu'Assis. Mais évidemment, c'est toujours plus grave d'adhérer à un principe que de faire un simple acte. Parce que c'est le principe qui est à la source de tous les actes, qui est à la source de l'action. Et par conséquent, avec un principe comme celui du libéralisme et de la liberté religieuse, eh bien, c'est ça qui vous fait faire l'œcuménisme, c'est ça qui vous fait faire la laïcité des États, n'est-ce pas, qui réclame la laïcité des États, et ainsi de suite. Alors, c'est bien plus grave. Assise très grave, c'est une apostasie, mais c'était un fait, c'est un acte, c'est pas un principe. C'est le résultat d'un principe. Alors, vous savez que le 28 juillet, donc, il m'a envoyé une lettre pour faire des propositions, soi-disant des propositions concrètes. Moi, j'ai toujours demandé qu'il nous envoie un visiteur, qu'il envoie, si possible, quelqu'un qui vienne voir, qui vienne se rendre compte, quelqu'un de... Enfin, qui vienne pour parler, simplement, pour voir, constater un peu ce que nous faisons, sans juger, sans prendre de jugement, sans prendre de décision. Mais ça, ils ne veulent pas. Ils veulent bien envoyer un visiteur, mais à la condition qu'il ait des pouvoirs très importants. Alors ça, c'est inadmissible. Pouvoir très important pour nous contraindre à les suivre. Ils veulent bien nous donner un évêque. Ils veulent bien nous donner la liturgie de 62, les quatre livres de liturgie de 62. Ils veulent bien nous donner une certaine... Mais comme ils mettent dans la lettre, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être déjà, en ont eu connaissance. Le Saint-Siège est disposé à concéder à la fraternité sa juste autonomie. Et à lui garantir la continuité de la liturgie selon les livres liturgiques en vigueur dans l'Église en 1962. Le droit de former des séminaristes dans des séminaires propres selon le charisme particulier de la fraternité. L'ordination sacerdotale des candidats au sacerdoce sous la responsabilité que jusqu'à nouvelle décision assumera le cardinal visiteur. Ah, oh, oui, c'est l'ordination sacerdotale des candidats au sacerdoce ne pourront plus rien dire, ni le supérieur général, ni moi-même, ni personne, ni le supérieur du séminaire n'aura plus rien à dire sur les ordinations sacerdotales. C'est le cardinal visiteur qui en prend la responsabilité. Alors, en attendant l'approbation de la structure juridique définitive de la fraternité, le cardinal visiteur se portera garant de l'orthodoxie de l'enseignement dans les séminaires. À quelle orthodoxie, je vous demande un peu, avec ce qu'ils enseignent alors. Ah bon, c'est pas possible. De l'esprit ecclésial et de l'unité avec le Saint-Siège. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste plus qu'à fermer le séminaire. Pensez bien. Orthodoxie, esprit ecclésial, unité avec le Saint-Siège, il faut traduire ça. Hein. Suivez-nous. Allez, pas d'histoire. Pas difficile pour le cardinal visiteur de demander aux séminaristes. Écoutez, maintenant, vous voyez, les choses vont s'arranger entre la fraternité et le Saint-Siège. Par conséquent, il y aura des relations normales entre les évêques et la fraternité, là où seront les prieurés. Évidemment, vous aurez l'autorisation de dire la messe Saint-Pie-V, c'est entendu, la messe Saint-Pie-V. Mais si votre évêque vous invite à concélébrer avec lui pour la fête patronale du diocèse, et avec la messe nouvelle, bien sûr, vous n'allez pas lui refuser. Ah non, moi je ne dis pas la messe nouvelle. Ah ben mon cher ami, vous attendrez pour votre ordination. C'est pas compliqué. Ah, c'est sûr ça. Ensuite, j'espère que vous êtes bien d'accord pour accepter le concile dans son ensemble, enfin. Oh, pas la liberté religieuse, c'est pas possible. Mon cher ami, vous attendrez votre ordination aussi. C'est pas possible, c'est clair. Au lieu de s'adresser à moi pour demander une signature au nom de toute la fraternité, va s'adresser maintenant aux candidats au sacerdoce, mais c'est tout, il va les éplucher, n'est-ce pas? Et donc l'orthodoxie de l'enseignement dans les séminaires, donc il va vérifier si dans les séminaires, il va pouvoir interroger tous les séminaristes pour savoir ce que chaque séminariste pense. Alors à l'avance déjà, hein, poser des lignes, des limites, renvoyer, etc. Bon. C'est plus possible, nous ne sommes plus les maîtres. Alors le cardinal Audi me téléphone il y a 3 jours, et me dit, alors, j'espère que vous allez accepter les propositions du Saint-Siège. Ah, sûrement pas. J'ai dit, sûrement pas. Pas un cardinal comme ça qui va venir comme visiteur puis qui aura tous les pouvoirs. Ça, c'est pas possible, voyons, quand même. Alors, pour qui nous prend-on, voyons? Non, ça, c'est pas possible. Nous voulons bien un visiteur, et surtout si c'est vous, Éminence, on vous recevra avec beaucoup de sympathie. Il a rigolé, il dit, oui, je pense qu'on vous enverra pas le cardinal Garonne. Alors, bon, il dit, il ne faut pas, faut tout, accepter, mais il faut accepter. Alors lui, il savait comment il est, je crois qu'il est de Piacenza ou quelque chose comme ça, hein. Alors c'est déjà un peu, c'est pas le midi de l'Italie, mais enfin, bon, ça n'est pas dans le nord. Hein. Et alors c'était lui qui me disait, n'est-ce pas, mais monseigneur, signez, puis vous ferez ce que vous voudrez après. Alors avec un cardinal comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis je le vois d'ici, moi, je le vois ici au milieu de nous. Et avec des petits groupes et tout ça, et bien, on se promenait avec les séminaristes, tout ça. Mais vous exagérez les difficultés, mais voyons, mais le consul, mais vous prenez ce que vous voulez, mais il ne faut pas comprendre le consul à la lettre, mais ceci, mais cela, etc. Il va minimiser nos difficultés, ça va minimiser notre résistance, n'est-ce pas? Mais la liturgie, puisqu'on vous accorde à l'aide de Saint-Puissant, vous pouvez quand même bien dire une fois de temps en temps la messe nouvelle, voyons, mais quand même pas, elle n'est pas hérétique, non, elle n'est pas schismatique, non, vous pouvez bien, pas exagérer, voyons, alors, minimiser, et puis au contraire, magnifier ce que le Saint-Siège va nous donner, voilà, oh, voyons, puis il faut s'entendre, qu'est-ce que vous attendez, oh, faut pas être comme ça, avec des catégories, et puis d'un esprit difficile. Alors, au cours de cette période, le cardinal Visiter décidera également de l'admission des séminaristes au sacerdoce, en toutes lettres, voyez, en tenant compte de l'avis des supérieurs compétents. Bon, c'est pas sûr. Alors voilà, ils sont prêts à envoyer un cardinal visiteur dans le but de trouver une forme juridique conforme au nom du droit canon actuellement en vigueur. Donc, évidemment, nous pourrions demander un cardinal visiteur sans pouvoir. Ça, je ne sais pas s'ils seraient d'accord, enfin, pour être d'accord. Mais même s'ils sont d'accord pour ça, j'ai très peur que ce cardinal visiteur, s'il est un peu habile, n'est-ce pas, se présente comme un conciliateur et arrive, je dirais, à influencer les esprits et tout ça, et à finir par nous diviser. Pourquoi? Parce qu'il va tellement bien s'y prendre pour expliquer, mais Rome, vous savez, ça, pas de danger, faut pas avoir peur, faites confiance, etc. Alors, bon, il y en a qui vont dire, oh, ben, pourquoi pas, puis d'autres, attention, prenons garde, derrière tout ça, on sait très bien comment ça s'est passé, à Fontgombeau, on sait très bien comment ça s'est passé chez D'Augustin, on sait très bien comment ça s'est passé avec les séminaristes qui sont partis, auxquels ils ont promis monts et merveilles, quand ils sont allés à Rome, et puis ensuite, pop, allez-vous-en dans les différents séminaires et tout ça, et puis laissez-nous la paix avec la messe de Saint-Puissant et tout ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Partout, ils ont toujours leur but, on le sent bien, c'est d'en finir avec la tradition. En finir avec cette messe de Saint-Puissant. Enfin, alors on la donne un petit peu, mais à la condition qu'on accepte l'autre, et puis tout doucement, ben, on ramène à l'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas ça avec nous. C'est pas de raison. Nous sommes un morceau un peu plus gros à avaler. un peu plus dur, mais le but est le même pour eux, c'est la même chose. Alors voyez, on nous appâte avec, la liturgie, avec le séminaire selon notre charisme, etc. Mais toujours soumission au Saint-Siège, unité avec le Saint-Siège, esprit ecclésial, c'est clair. Et ça, il le répète au moins 4 ou 5 fois dans la lettre. C'est pas possible. Il le met tout de suite au début parce qu'il refuse, bien sûr. Le Saint-Siège ne peut accorder des auxiliaires à la fraternité sans que celle-ci soit dotée d'une structure juridique adéquate et sans que ses rapports avec ce même siège apostolique soient bien réglés au préalable. En raison de l'institution divine de l'Église, telle situation juridique comporte nécessairement révérence et obéissance de la part des supérieurs et des membres de la fraternité à l'égard du successeur de Pierre, le vicaire du Christ. Dans les limites de cette obéissance et dans le cadre des normes canoniques, le Saint-Siège est disposé à concéder, etc. Voilà. Oui, tout de suite, ce cadre dans lequel ils veulent nous enfermer, c'est clair. Je pense, personnellement, je ne crois pas que ce soit possible. Et vraiment, moi, je crois qu'on a affaire à... Non. À des gens qui n'ont plus l'esprit catholique. Alors, c'est un mystère. Un mystère inconcevable, invraisemblable. Et il y a sûrement une clé à ce mystère. Quand la serons-nous, quand la verrons-nous, quand saurons-nous ce qu'il y a derrière ça? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose. C'est pas possible autrement que celui qui soit assis sur la chair de pierre ait fait assise. Inconcevable. Qu'il ait encore envoyé cette année à Kyoto, là-bas, au Japon, au Parlement des religions, une délégation représentant notre Seigneur, pratiquement représentant l'Église catholique, quand même, notre Seigneur, le vicaire du Christ, eh bien, qui a été mis le quatrième, au quatrième rang, parmi les religions. Enfin, vous croyez que celui qui fait ça, celui qui accepte ça, croit encore à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et personne ne dit rien. Et personne n'élève la voix. Et aucun cardinal n'élève la voix. Et les délégations. Et tout le monde se tait. Et toute la curie romaine est derrière. L'abomination, vraiment l'abomination. Notre Seigneur au milieu de ces païens, des païens. Les Japonais sont des païens. Alors, ils adorent des divinités païennes. Vraiment, enfin, c'est pareil d'ailleurs des autres, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, là, c'est spécifiquement des idoles, ils adorent des idoles. Alors... Oh non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors je pense que plus ça va, moi j'avais toujours prié, j'ai toujours beaucoup prié pour que notre Seigneur nous montre ou le retour de Rome à la tradition, ou l'aggravation, l'éloignement de Rome de la tradition, pour que ce soit plus clair, pour que nos décisions soient plus faciles, parce que ce n'est pas facile de prendre des décisions maintenant, dans des conditions pareilles. Or, il est clair que les circonstances actuellement montrent que c'est l'éloignement de l'Église qui est maintenant caractérisé bien plus qu'il y a un an ou deux. Bien plus. Bien plus. Cette réponse aux objections qui déchristianise la société d'une manière, par sa définition, ce n'est pas une tolérance, ce n'est pas simplement une tolérance de la société. Bon, la société des païens, on tolère, mais elle devrait être chrétienne, elle devrait être soumise à notre Seigneur. Non, 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 non. C'est sa définition. C'est désormais une chose par nature. La société n'est pas chrétienne, ne doit pas être chrétienne et ne doit pas être religieuse. C'est invraisemblable. Alors cette déchristianisation, je pense qu'on peut la, on peut dire que ces personnes qui occupent Rome aujourd'hui sont des antichrists. Je ne dis pas antéchrist, je dis antichrist comme le dit saint Jean. Déjà l'antichrist sévit de notre temps, dit saint Jean dans sa première lettre, n'est-ce pas? L'antichrist, des antichrists. Voilà, oui, ils sont antichrists, c'est sûr, absolument certain. Alors, devant une situation comme celle-là, je crois que nous n'avons pas à nous préoccuper des réactions de ces gens-là, qui nécessairement sont contre nous. Comme je vous l'ai dit au cardinal, nous sommes tout pour le Christ. Ils sont contre le Christ. Mais comment voulez-vous qu'on puisse s'entendre? Alors, eux nous condamnent parce qu'on ne veut pas les suivre. Alors, donc, on peut résumer la situation en disant, ben, si vous faites des œuvres, vous serez excommunié. Bon, oui, vous serez excommunié. Alors, mais excommunié par qui et pourquoi? Excommunié par ceux qui sont des antichrists, qui sont donc, qui n'ont plus l'esprit catholique, et qui condamnent, et nous sommes condamnés, pourquoi? Parce que nous voulons rester catholiques. C'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes poursuivis, parce que nous voulons rester catholiques. Nous sommes poursuivis parce que nous voulons garder la messe catholique, parce que nous voulons garder la foi catholique, parce que nous voulons garder le sacerdoce catholique. Et nous sommes poursuivis à cause de ça. C'est sûr, c'est clair, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont été poursuivis, tous les curés qui ont été chassés de leur paroisse, tous les prêtres de Campos qui sont poursuivis et persécutés, pourquoi sont-ils poursuivis? À cause de la messe. La messe, justement, ancienne, qui est le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ en croix, qui règne par sa croix, qui est la manifestation du règne de notre Seigneur sur la société aussi, pas seulement sur les familles et les individus, mais sur la société aussi. Toute la société réunie autour de l'autel, proclamant la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ par sa croix, par son sacrifice. Alors ça, on n'en veut plus, évidemment, pour les protestants, c'est un blasphème, etc. Bon, c'est bien. Alors, pour faire plaisir aux protestants, alors, on a déchristianisé la messe. Elle est pratiquement déchristianisée. Ça devient maintenant une assemblée, une eucharistie, un repas, un partage, une communion, et tout ce que vous voudrez. Mais c'est plus le Christ qui règne, c'est plus le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, rédempteur et propitiatoire. Alors, c'est affreux de penser à cette situation. C'est un grand mystère, c'est sûr. Alors, qui en est parmi vous qui tremble un petit peu à la pensée que bon, si on faisait des évêques, on serait excommunié, tout ça. Mais enfin, il faut se placer dans la situation telle qu'elle est actuellement. Alors, on dirait, ben, si donc. Puisque le pape existe, il faut le demander au pape. Je l'ai demandé, puisqu'il me répond. Il me répond non. Il m'a répondu. Je lui ai demandé des auxiliaires. Il dit non, on ne peut pas vous en accorder. Pourquoi? Quelle est la volonté du pape en disant non? Quelle est sa pensée? On ne veut plus de tradition. La tradition, c'est quelque chose, c'est fini. C'est fini. Bien que la fraternité, que Mgr Lefebvre comprenne, que ça, c'est terminé. On n'en veut plus. Alors qu'ils ne viennent pas nous demander maintenant de faire des évêques qui vont continuer la tradition. Ça, c'est pas possible. Alors, bien sûr, je sais bien que le principe demeure et les principes demeurent. On ne peut pas, même les circonstances ne peuvent pas supprimer les principes. Et donc, je dis que si on va dire, mais enfin, c'est le pape qui doit nommer les évêques, c'est le pape qui a juridiction sur les évêques, c'est le pape qui doit donner la mission canonique aux évêques, etc. Enfin, donc l'apostolicité aux évêques. Ça, je suis absolument d'accord. Je sais bien, on peut apporter un livre entier de citations, de pères, de docteurs, de théologiens, tout ça, pour prouver ça, c'est tout à fait certain. Mais je pense qu'il faut quand même distinguer entre les principes qui demeurent et auxquels nous devons adhérer, et puis la pratique qui a été suivie historiquement au cours de l'histoire. la concrétisation de ces principes a été très diverse, et elle est encore même maintenant très diverse, suivant qu'il s'agit des orientaux, qu'il s'agit de telle église orientale, et tout ça, patriarcale, et ainsi de suite. Enfin, elle est encore diverse de notre temps, mais elle l'était encore bien plus autrefois, surtout dans les premiers siècles. Alors on dira, mais ça vous dispense pas, même si les circonstances maintenant sont telles, ça ne dispense pas. On ne peut rien faire quand même contre le pape. Alors je réponds, contre le pape qui agit en catholique, c'est vrai, poser un pape qui, pour continuer l'œuvre de l'Église, nous refuserait des auxiliaires. Bien. Mais contre un pape qui démolit l'Église, qui est pratiquement un apostat et qui veut nous rendre apostats, alors je vous demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il renoncer à la continuité de cette œuvre d'Église pour faire plaisir à quelqu'un qui ne veut plus de la tradition, qui ne veut plus de notre Seigneur Jésus-Christ règne, que notre Seigneur Jésus-Christ règne publiquement, qui nous conduit à l'apostasie? C'est ce que j'ai dit au cardinal Ratzinger. Parce qu'il m'a dit, mais enfin, le pape est infaillible, enfin, vous ne pouvez quand même pas vous dresser comme ça contre le pape, etc. Vous allez être excommunié, ainsi de suite. Je dis, infaillible, enfin, entendons-nous, l'infaillibilité est très restreinte, mais je pense qu'il n'est pas contre les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ que le pape, éventuellement, puisse, par une pastorale, désordonné par une fausse pastorale, emmener les catholiques vers l'apostasie. Je dis, c'est pas un principe, ça. N'a jamais été dit que le pape ne ferait pas de choses qui sont contraires au bien de l'Église. Or, c'est le cas maintenant. Le pape fait une pastorale qui emmène les peuples dans l'apostasie. C'est clair. Absolument certain, ne peut pas s'imaginer le mal qu'a fait Assise dans les hommes. Incalculable. Même parmi nos traditionalistes, beaucoup ne croient plus à l'unicité de la religion. Donc, ils croient vraiment que tout le monde se sauve, tout le monde peut se sauver dans sa religion. Par sa religion, pas de problème. Ça, c'est la faute du pape. Parce que cet exemple, ils ont vu cela, n'est-ce pas, ils voient, alors, ils sont vraiment trompés par cette prière pour la paix. Alors, ils prient pour la paix, pensent, non, toutes ces religions, c'est la première fois qu'on voit une chose comme ça, toutes ces religions réunies, mais regardez, quelle charité, comment. Ils n'ont plus la notion de la vérité, ils n'ont plus la notion de la vraie religion, ils n'ont plus la notion. Alors le cardinal Ratzinger m'a dit, vous savez, le pape lui a quand même été un petit peu choqué par votre dessin. Hein. Donc il l'a vu. Bah, j'ai dit, seulement ça peut sauver son âme, ça sera déjà quelque chose. Seulement il peut sauver son âme. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez? Il était choqué, peut-être que ça. C'est peut-être ça qui l'a fait réfléchir un petit peu, qui l'a fait moins de tam-tam autour de la réunion de Kyoto. Là. On n'a presque pas parlé dans les journaux. Et pourtant, elle a eu lieu. Puisqu'il en a parlé à l'Angélus, que je ne sais pas à quel Angélus, sur la place de Saint-Pierre. Il en a parlé. Donc, c'est que ça a bien eu lieu. Mais ça a passé inaperçu. Moi, je ne sais pas. Mais personnellement, je n'ai rien vu nulle part. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Moi, je n'ai rien vu nulle part de cette réunion. Réunion qui est aussi abominable que celle d'Assise. Même chose, c'est la répétition. Mais pour Assise, je sais, on a parlé dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais là, alors, qui sait tout de même s'il n'a pas réfléchi un petit peu, si nos remontrances, nos réclamations, nos supplications, pas arriver à ébranler un tout petit peu, je n'en sais rien, je ne veux pas donner plus d'importance que nous avons, mais en tout cas, il est certain qu'il y a eu une grande différence entre ces deux manifestations. pour au moins pour la presse et pour la publicité. Alors, je pense qu'à Rome, ils sont émus, bien sûr. J'ai bien remarqué que le cardinal était un peu ému de cette éventualité de sacre de l'évêque. Alors, il a alerté beaucoup de monde. Enfin, je crois qu'il a dû... Je me demande si cette lettre n'a pas été envoyée même à tous les cardinaux et à tous les évêques. Parce que pour que j'ai reçu même une lettre d'un cardinal du Vietnam, un peu, au sujet de la lettre que m'envoie le cardinal Ratzinger, et puis une lettre de Monseigneur Mamy, dont vous avez sûrement entendu parler. Il est charitable, Monseigneur Mamy, il a bon cœur. Alors, il m'a écrit, Monseigneur, je vous renouvelle la demande que je vous avais faite il y a 10 ans. Et il m'envoie le double de la lettre qu'il m'avait envoyée il y a 10 ans, en 77, au moment des grands événements, n'est-ce pas? Alors il me disait déjà en 1977, mais Monseigneur, soyez donc humble, soyez donc généreux, soyez donc, ayez donc un grand cœur, remettez toutes vos œuvres dans les mains du pape, c'est ce que vous avez de mieux à faire, ne soyez pas attaché à ce que vous faites, donnez tout à l'Église, enfin, ce serait un si beau geste, n'est-ce pas? Alors, il m'a dit, je vous renouvelle ces mêmes propositions, mais Monseigneur, réfléchissez, voyons, de grâce, laissez donc toutes vos œuvres dans les mains du Saint-Père. Et soyez assurés que je pense à vous, et donc vous aurez une villa à votre disposition, et vous serez sans souci matériel jusqu'à la fin de vos jours. Alors vous voyez, hein, je vous abandonne demain, puis je vais dans ma villa, je ne sais pas où, jusqu'à la fin de mes jours, je serai entretenu par Monseigneur Mamy. Voilà. Alors je ne sais pas, mais avant quand même, peut-être que j'enverrai une délégation pour voir où est cette villa et où est cette villa. Alors, j'ai reçu aussi des longues lettres de monsieur l'académicien Guiton. Lui aussi, il a reçu la lettre. Alors, lui aussi, il m'a dit, il faut accepter, mais cependant, il dit, voilà la lettre que j'ai envoyée au cardinal Ratzinger. Et dans la lettre du cardinal Ratzinger, il est quand même très... Enfin, il fait des réflexions assez justes. Il dit, ouais, quand même, vous savez, éminence, votre lettre est bien, mais qu'est-ce qui va rester de l'autorité de la fraternité? En effet, il ne restera pas grand-chose. Alors, il a une grande lettre. Alors, voyez, même les laïcs sont au courant de toutes nos affaires. c'est amusant. Alors, il m'envoie Je pressens également les difficultés qui ne manqueront pas d'être soulevées. Et c'est pourquoi je me permets de vous suggérer quelques propositions et compléments qui ne remettent pas en cause l'économie générale de votre offre, devraient favoriser une acceptation de la part du fondateur de la Fraternité Saint-Pie-X. Premièrement, il est évident que tout tourne autour de la mission que le Saint-Siège envisage de confier au cardinal visiteur. Or, la personnalité de ce dernier jouera un rôle déterminant. Il me semble donc qu'il devrait être possible de trouver un accord préalable, au moins officieux, avec Mgr Lefebvre sur la personne du cardinal visiteur. Je songe pour ma part au cardinal Siri, qui vient de renoncer au gouvernement de diocèse de Gênes. Je le connais bien. Je pense qu'il ne risquera pas d'être récusé par Mgr Lefebvre. Je songe également au cardinal Garonne. Au cardinal Gagnon. Cardinal Gagnon. Deuxièmement, la mission confiée au cardinal visiteur dans son articulation avec les fonctions exercées au sein de la fraternité par ses responsables demeure sur certains points un peu ambiguë. Qui aura le pouvoir d'ordonner les prêtres? Le texte parle d'ordination sacerdotale sous la responsabilité. Comment doit être compris et interprété le pouvoir de décision du cardinal visiteur en ce qui concerne l'admission des séminaristes au sacerdoce? L'avis paraît donc doit être obligatoire, mais doit-il être conforme? Plus généralement, quel pouvoir est reconnu au cardinal visiteur pendant la période transitoire par rapport à l'autorité des supérieurs de la fraternité? Ainsi de suite, enfin. Il conviendrait de fixer que les autorités, celles du visiteur, celles des supérieurs de la fraternité, s'exercent conjointement. Enfin, l'acceptation par M. Lefebvre des propositions du Saint-Siège ne devrait-elle pas comporter comme corollaire la levée des sanctions canoniques prononcées contre lui? Un tel geste de mansuétude aurait sans conteste une grande portée. Donc, il voit bien les difficultés, n'est-ce pas? Mais je pense que, à mon sens, nous n'avons pas affaire à des gens honnêtes. C'est ça qui est terrible. Nous n'avons plus affaire à des gens honnêtes. Autrefois, quand on allait à Rome, quand j'allais à Rome comme délégué apostolique, j'avais affaire à des gens honnêtes, à des gens qui voulaient le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à des gens qui travaillaient pour le salut des âmes. Maintenant, c'est plus ça. On n'est pas pour le salut des âmes. On travaille pour la gloire humaine de l'Église dans le monde. La gloire purement humaine. Ce rassemblement de toutes les religions, rassemblement de toutes les idéologies, le communisme, le franc-maçon, tout ça, les juifs, vous avez vu ces réunions, ces jours-ci avec les juifs, il va les retrouver à New York et tout ça. C'est ça, une gloire purement humaine, abominable même, parce que c'est tout la vérité avec l'erreur, la vertu avec le vice et tout ça, enfin, les amis de notre Seigneur Jésus-Christ étant avec les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons, c'est une abomination. Alors c'est ça qui est à Rome maintenant, c'est ça, ils ne pensent qu'à ça, ils ne vivent que de ça, et dedans, derrière tout ça, des histoires financières, véreuses, n'est-ce pas, véreuses. Alors, ils sont. C'est ce que disait la cardinal à Rome, on parlait, quel est un peu le leitmotiv qui tient tout ce monde-là, tout ce monde qui travaille ici à Rome? Il m'a dit ça, Monseigneur. Ça, il m'a fait le geste. Ça, l'argent. Il travaille pour l'argent. Alors, derrière tout ça, on peut imaginer tout ce qui peut se passer. Je vous dis, j'ai eu l'occasion de le dire. À ceux qui ont des hésitations encore sur Rome, je dis, je suis intimement persuadé que nous ne savons pas la moitié de ce qui se passe à Rome. Et que si nous sommes déjà scandalisés par la moitié que nous savons, eh bien, pensons qu'il y a encore la moitié de plus. Si nous savions tout, nous serions épouvantés. C'est nous avons affaire vraiment à une mafia incroyable, invraisemblable, lié à la maçonnerie, certainement, n'est-ce pas? L'abbé Chalard nous aide bien dans ce domaine, parce que Sissi Nono nous éclaire bien sur la situation à Rome. Il en dit plus que moi encore, alors c'est pas peu dire. Oh, c'est abominable. De très belles, très bonnes études, d'ailleurs, vraiment, je félicite le Chalard et tous ses collaborateurs, parce que des études bien, bien faites, bien appuyées sur le texte de l'Écriture, sur la théologie, ça c'est serein, c'est pas polémique, c'est très clair, c'est très net, ça doit certainement, vous savez, tomber comme de bonnes pierres solides dans la curie au Vatican, hein, à Rome, parce qu'ils ne peuvent rien dire, pour ça, ils ne peuvent rien à dire. C'est quand même fort qu'ils arrivent à supporter des choses comme ça, des journaux comme ça, ils arrivent à supporter, même qu'ils arrivent à supporter nos lettres et tout ça, n'est-ce pas? Et qu'ils ne peuvent rien y dire, mais ils ne peuvent pas répondre. C'est fort. Il devrait y avoir normalement, dans un journal romain, à chaque fois que paraît Sissi Nono, une contradiction de Sissi Nono, pour contredire ce qui a été dit. Jamais. Ils peuvent pas. Alors, c'est grave quand même, ça, c'est très très grave. Enfin, moi je pense qu'il faut prier, je ne sais pas, évidemment, il y en a qui demandent, Monseigneur, quand est-ce que vous allez faire ça? Je ne sais pas. Qui vous allez faire? Je ne sais pas non plus encore. Je ne sais pas. C'est encore dans le secret. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Alors, on verra bien ce que le bon Dieu inspirera au moment où il faudra le faire. Si toutefois je dois le faire. Et je vais même demander au bon Dieu. Vous voyez, je ne suis pas attaché particulièrement à faire ces consécrations épiscopales, croyez pas. Notez que j'en ai déjà fait des consécrations épiscopales, j'en ai fait 3 déjà, n'est-ce pas, des consécrations épiscopales. Monseigneur Guibert, Monseigneur Dotz, Monseigneur Don, donc 3 évêques que j'ai déjà consacrés. Comme je dis, si je consacre les évêques, je les consacrerai exactement dans la même intention et dans les mêmes dispositions que j'ai consacré ces évêques-là. Bien sûr, ces évêques-là avaient un mandat romain, c'est clair, c'est évident. Mais enfin, excusez, je pense que dans les circonstances actuelles, on peut penser au mandat que donnera le pape à sa conversion ou le pape qui suivra, le pape qui retournera à la tradition, car il est impossible que Rome demeure en dehors de la tradition indéfiniment. C'est impossible. Le bon Dieu permettra un jour le retour avec leurs successeurs. Pour le moment, ils sont en rupture avec leurs prédécesseurs. Ils n'acceptent plus les encycliques depuis Mirarivos jusqu'à Humani Generis du pape Pie XII, des encycliques qui ne veulent plus les considérer, ils ne veulent pas en tenir compte, n'est-ce pas? Alors, c'est pas possible ça quand même, enfin, c'est pas possible, on n'est plus dans l'église catholique, alors je dis, ah bien, c'est que le jour où le pape reviendra à la tradition, il est clair qu'il ne pourra s'appuyer que sur la fraternité, sur ceux qui travaillent comme la fraternité, sur ceux qui ont les pensées, les principes de la fraternité, enfin, de catholiques, quoi. S'il veut rétablir l'Église catholique, où va-t-il trouver des appuis? Où? Obligé, il n'y a pas, c'est impossible autrement. C'est pas pour nous vanter, c'est pas pour vanter la fraternité, qu'est-ce que vous dites? C'est comme ça, c'est un fait. Alors, pourquoi il faut avoir confiance? Et puis, ma foi, si bon Dieu veut, si bon Dieu veut pas que je fasse des évêques, je lui ai demandé qu'il fasse mourir avant, mon caveau est prêt. Alors, c'est pas difficile, il n'y a pas loin à aller. Alors, c'est pas difficile pour le bon Dieu de me faire mourir avant. Hein? Je peux être assassiné, je peux avoir un accident de voiture, je peux avoir n'importe quoi, c'est pas difficile. Alors, une maladie quelconque, on verra bien. Alors prions et continuons à prier et comptons enfin, même sur les croissants de Notre-Dame de Fatima. Je crois que le pèlerinage de Fatima a fait beaucoup de bien, puis a été vraiment une consolation pour tous ceux qui ont été présents là-bas. C'était vraiment une belle chose. Puis nous sommes de nouveau consacrés à la Très Sainte Vierge et puis même la Russie et enfin le monde entier. Alors espérons que la Très Sainte Vierge va nous dévoiler ce mystère qui se trouve derrière la situation que nous constatons, mais dont nous ne connaissons pas la clé de ce mystère. Pour le bien des âmes, pour que l'Église retrouve sa tradition, pour ça, c'est pas pour autre chose, pour la gloire du bon Dieu.